Vous écoutez bien Radio Libertaire, c'est Jeudi Noir, donc Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Jeudi Noir, donc c'est une émission la quinzaine. Ce soir, nous allons vous parler d'un auteur anglais, à la fois d'un certain côté assez connu, peut-être pas directement, et d'un autre totalement méconnu à mon avis. Cet auteur, donc, c'est John King. John King, donc un auteur né en 1960, qui a été fortement et même sans doute décisivement influencé par la période punk, qu'il a découvert vers 15-16 ans, avec les Clash, avec les Pistols. Et donc c'est un auteur qui nous intéresse beaucoup depuis déjà quelques années. Donc il a déjà à son actif 6 ou 7 titres. Tous ne sont pas traduits en français, c'est bien dommage, parce que les deux qui n'ont pas été traduits en plus sont assez révélateurs de certaines tendances profondes dans son œuvre. Alors, donc deux, trois choses, là on a, pour tout vous dire, on attend que José puisse passer un vinyle. José, ça marche le vinyle? Bon, on va vous passer un petit vinyle donc de ska, voilà, parce que John King fait souvent allusion au ska, et on aime bien faire de la musique qui soit en référence avec... les auteurs dont on parle. À tout de suite. Doggy dead. Doggy dead. Pussy got nine life. Pussy can't dead. Because pussy got nine life. Me say, you can't get away from the fact. The fact, pussy got nine life. Doggy can't stand up. You got to use a walking stick to cut it up. Pussy got nine life. Doggy dead, pussy kill him. Bonsoir, donc Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4. Ce soir, nous allons vous parler de John King après un petit morceau de ska. C'était quoi comme groupe, José?
Hot Rod All-Stars.
Hot Rod All-Stars.
Un des meilleurs.
Voilà, du canal historique, comme disait Jean-Mathias, qui a décidé d'être taquin ce soir. Donc voilà, Jean-Mathias dans le rôle du taquin, Michel qui vous parle à l'instant, et José qui est à la technique, mais qui va aussi prendre le micro aujourd'hui. On a enfin réussi à l'y pousser. Donc ce soir, on vous parle de John King. Alors, John King appartient à un courant littéraire assez connu, enfin, c'est un auteur assez réaliste. C'est-à-dire qu'il s'attache essentiellement à décrire la réalité sociale, et en particulier la réalité sociale populaire. Alors, c'est assez intéressant parce que finalement, à ma connaissance, il y a assez peu d'auteurs français réalistes contemporains. Alors peut-être que je suis passé à côté de perles littéraires, mais en tout cas, ce qui est en tête de gondole, en règle générale, c'est plutôt du curetage de nombril entre le 5e et le 6e arrondissement.
Ça s'appelle de l'autofiction, Michel.
Oui, donc du curetage de nombril entre le 5e et le 6e arrondissement, donc Christine Angot et compagnie. Voilà, bon, il y a quelques Anglais qui, eux, ont décidé de se sortir la tête du nombril et de s'intéresser à ce qui se passait autour d'eux. Et il se trouve que c'est beaucoup plus intéressant que ce qui se passe dans un nombril. Allez savoir. Ça ne surprendra peut-être pas tout le monde. Alors, je pense à deux auteurs en particulier. Je vais faire un petit comparatif très rapide. C'est entre John King et un autre auteur qui est un peu plus connu, qui s'appelle Jonathan Coe, qui a écrit « Testament à l'anglaise »,« Le cercle fermé », le club, j'ai oublié quoi, c'est le Rotters Club en anglais, c'est un autre truc en français. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux auteurs sont deux auteurs assez réalistes qui s'attachent justement à décrire la société anglaise contemporaine, mais ils sont intéressants à comparer parce que ils ont un point de vue qu'on pourrait dire presque de classe totalement différent. Alors que Jonathan Coe est beaucoup plus appartient et décrit davantage la petite et moyenne bourgeoisie, King lui va s'attacher à décrire essentiellement les classes populaires. Alors après, comment et dans quel but, on va voir ça. Alors, je vous cite rapidement quelques-unes de ses œuvres, tous les bouquins qu'il a pu publier. Donc, il a commencé par un livre qui est très connu, qui s'est vendu à 200 000 exemplaires en Angleterre, qui a donné lieu à un film, c'est The Football Factory. Ça a été publié sous ce titre en français. Donc, vous avez une édition.
Édition de l'Olivier.
Voilà, édition de l'Olivier. De John King. Et alors, c'est un livre assez étonnant qui s'attache à un hooligan anglais, en fait. Et donc, le début est assez. Enfin, je peux lire quelques lignes, peut-être.
Vas-y.
Donc, rien que pour vous donner une idée du début. Coventry égale de la merde. Une équipe de merde, des supporters de merde. Hitler a bien eu raison de raser cette zone. La seule chose intéressante qui soit jamais sortie de Coventry, c'était les specials, il y a des années de ça. Donc, je continue pas là-dessus. Donc ça donne un livre qui est finalement une plongée dans la vue d'un supporter de Chelsea. Le club de foot Chelsea.
Tous les auditeurs qui sont pas forcément.
En même temps, ils s'intéressent pas trop au match. Dans le roman, on n'a pas l'impression qu'ils les voient parce que son occupation essentielle, c'est d'essayer de trouver à se battre avec les supporters des équipes adverses.
À l'occasion du match.
Voilà. Mais pour voir le match, ça rend les choses un peu compliquées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que John King, dans certaines interviews, a précisé un petit peu ce qu'il voulait montrer dans ce roman. Et c'est pas du tout une apologie de la violence footballistique des hooligans. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est footballistique. Il s'agit plutôt de s'interroger sur justement le fait que les gens de la classe populaire anglaise préfèrent se taper sur la gueule les uns des autres que d'essayer d'unir leurs forces de manière politique. Donc, il y voit, une sérieuse perte d'énergie, pas mal de violence stérile, et en même temps, un mode de vie qui a une certaine cohérence. Mais ce qu'il ajoute aussi, c'est qu'il pense que ce supporter de foot, finalement, est beaucoup plus proche des attentes de la société qu'il ne l'imagine, ou que la société elle-même ne l'imagine. Et il ajoute aussi que John King, donc le personnage principal, mais un peu caché, de Football Factory, c'est un personnage d'ancien combattant, qui a perdu un petit peu la boule depuis que sa femme est morte, et qui essaie de continuer à vivre avec ses souvenirs et avec des projets. Donc ça, c'est le premier bouquin, Football Factory, qui pourrait donner lieu à des contresens, je pense, sur John King. Peut-être, je ne sais pas trop ce que tu en penses, Jean-Mathias. Tu restes très silencieux.
Ouais, non, Contresens, je sais pas si on peut dire ça. C'est quand même un livre qui est une plongée au cœur effectivement de la vie quotidienne d'un supporter, un jeune chômeur anglais.
Ah, il n'est pas chômeur, il est manut.
Tu as raison,
il fait de la manutention.
Oui, et c'est important parce qu'effectivement il y a aussi une certaine agressivité, un certain mépris, y compris de ceux qui peuvent être au chômage. Alors c'est pas un livre sur le foot, en même temps c'est aussi un livre sur le foot. C'est aussi il y a aussi ça, et c'est surtout en fait moi un des intérêts de ce livre là c'est que c'est vraiment une espèce de portrait d'une identité effectivement de la classe populaire et de voilà, sans jugement moral. Il y a une espèce de, c'est ça aussi qui fait la force du texte et puis des personnages, il me semble, c'est qu'il y a une espèce de suspension comme ça de tous les le politiquement correct ou le moralement correct qu'on utilise habituellement pour parler de ce type de violence là ou de ce type de comportement là. On a effectivement quand même une photographie assez assez passionnante et puis assez chouette de ce mode de vie là, quoi. Donc Contresens, oui. En même temps, voilà, bon, effectivement, c'est pas une apologie de la violence, c'est pas une apologie, ça c'est clair. Donc il faut le préciser. Après, on s'amuse bien.
Oui. Alors son deuxième ouvrage, ça s'intitule c'est La Meute. Ça, c'est plus consacré. Le thème, c'est un groupe de copains qui se retrouvent régulièrement au pub. Et ils s'ennuient, ils vont faire une espèce de concours complètement machiste de savoir celui qui couchera avec le plus de nénettes dans l'année. Ça se termine absolument d'une façon atroce. Et puis tous les personnages en plus, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment à fond dans le jeu parce que les autres s'en fichent un peu. C'est pas leur objectif principal. Mais là, c'est. Vous avez aussi, c'est encore pareil, c'est un tableau de la sociabilité masculine anglaise. Je pense qu'on peut le décrire comme ça. Mmh. Et dans ces, comment dire. Mais un peu, avec un peu plus, avec aussi leur choix politique, avec tout un tas de choses. C'est un roman assez sombre, je trouve. Mais là encore, c'est assez marquant. Et puis les personnages sont tous assez différents. Finalement, et on arrive bien à les. Ils ont dans des parcours, ils ont des visions du monde qui ne sont pas forcément. Convergentes. On va dire ça comme ça. Entre le Thatcherien converti et puis le prolo qui casse la gueule de son contremaître, il y a des petites différences. Sans parler du punk qui, lui, se moque totalement du concours de grand baiser et qui s'occupe de sa boutique de disques. Sans se soucier de beaucoup d'autres choses. Et bon, vous avez pas mal de choses là-dedans. Donc Football Factory, La Meute, et le troisième, parce que ça forme une sorte de trilogie, c'est Aux couleurs de l'Angleterre, c'est comme ça que ça a été traduit. Et en français, en anglais, c'est England Away, c'est-à-dire les Anglais à l'extérieur. Et là, en fait, King continue son espèce de réflexion sur les conditions de l'unité, finalement, d'une certaine unification du peuple. Et toute la violence des hooligans est mise aussi en rapport finalement avec la presse, et ça c'est déjà dans Football Factory, la façon dont la presse se répète cette violence tout en la condamnant et en s'en servant comme à la fois comme une occasion de montrer ses bons sentiments tout en insultant à peu près toutes les classes populaires, y compris celles d'ailleurs qui ne s'adonnent pas forcément à ça, et en faisant vendre, finalement, en vendant des images, des articles à ce sujet. Donc, il y a une mise en parallèle, si vous voulez, entre, on pourrait dire ça comme ça, le hooliganisme des Anglais à l'extérieur de l'Angleterre, la Seconde Guerre mondiale et les visions des anciens combattants qui regardent les informations en entendant des journalistes parler de guerre au sujet des meutes de hooligans, et donc ils n'en croient pas leurs oreilles parce que parler d'une guerre à ce sujet, ça leur semble un peu exagéré, pour le moins. Et puis, donc, les journalistes. Et aussi une espèce de personnage, qui est dans la sécurité et qui est obsédé par l'idée de contrôle. Donc on y reviendra parce qu'il y a beaucoup de thèmes orwelliens qui reviennent chez John King.
Oui, c'est une référence qui revendique
très régulièrement. Dans toutes les interviews que j'ai pu lire de lui, il n'arrête pas de dire que George Orwell est l'auteur qui l'a le plus influencé en termes d'idées. Donc ça, c'est sa première trilogie, si vous voulez. Donc Football Factory, La Meute et Aux couleurs de l'Angleterre. Et ensuite, il en a écrit une deuxième. Ça, j'ai vu ça dans des interviews. Avec des romans qui sont très touchants, pour le coup, je trouve. Alors il y en a trois, dont deux ne sont pas traduits, évidemment, parce que c'est moins sensationnel à mon avis. Je le vois typiquement comme ça. Donc il y en a un qui s'intitule Human Punk. Celui-là a été traduit, même si le titre ne l'a pas été une fois de plus. Donc Human Punk, c'est un très beau roman en trois parties sur qui semble être le plus autobiographique, le plus le rapprocher d'une autobiographie en termes d'âge des personnages. Donc c'est l'histoire d'un jeune gars qui a 15-16 ans au moment de la vague punk en Angleterre.
Qui ressemble donc effectivement beaucoup à John King.
Qui ressemble beaucoup à John King, y compris dans certains événements biographiques. Et donc il est au milieu d'une bande d'amis, ils écoutent tous du punk, ils sortent le soir, ils s'amusent. Jusqu'à ce que le personnage principal et son meilleur ami se fassent agresser violemment. Par des teddy boys ou je sais plus quoi, qui ne supportent pas les punks. Et donc, cette tragédie va changer leur vie à jamais. Et donc, on va suivre finalement ce personnage entre 76 et les années 90, je crois, 2000 peut-être même. Ça va très loin. José 2000. 2000 d'après José. Donc.
Le livre est de 2000. En 2000 en Angleterre. Traduit en 2003 en français, mais effectivement, c'est.
Ouais. Et donc, c'est un livre qui est pour le coup. C'est un des romans les plus émouvants, je trouve, de John King.
Je suis d'accord.
Et on sent qu'il a, pour le coup, il y a une grande empathie avec le personnage principal. Qu'il décrit dans les interviews, au contraire du hooligan. De Football Factory comme un individu qui justement essaie de vraiment de ne pas se compromettre avec avec le système social qu'il déteste et qui va vraiment essayer de mener sa vie
construire sa vie
comme il peut au milieu de toutes les merdes qui lui tombent sur la tête parce qu'il y en a quand même un certain nombre en partie lié à son passé mais pas que. Et bon, voilà, donc c'est à la limite, si vous deviez peut-être commencer par un bouquin de John King, dans ceux qui sont disponibles, je pense que c'est peut-être celui-là.
Sauf si vous aimez le football, à ce moment-là, il faut commencer par Football Factory.
Ouais. Mais si vous êtes plus attiré par le côté punk, allez vers Human Punk.
Ça fait déjà deux entrées.
C'est un beau roman. Ensuite, bon, pour les anglicistes, et pour ceux qui ne le sont pas, je leur mentionne et j'explique un petit peu deux autres romans de John King. Il y en a un qui s'intitule White Trash. Donc White Trash, c'est une allusion aux classes populaires pauvres et laissées pour compte de l'Angleterre. Et en fait, c'est un roman qui est construit de façon assez particulière parce qu'il y a deux points de vue qui sont confrontés. C'est le point de vue d'une infirmière et d'un haut fonctionnaire chargé de rationaliser les dépenses de santé dans les hôpitaux. Alors, je vous dis pas l'intrigue, parce que vous verrez qu'elle est assez particulière. Enfin, vous verrez si vous le lisez. Bon, malheureusement, il est qu'en anglais, évidemment. Petit aparté pour ceux qui lisent l'anglais. Si vous lisez l'anglais, allez directement dans le texte, parce que les traductions sont vraiment pas terribles. Elles sont pleines de contresens assez honteux.
Tu parles en général, hein,
sur
la plupart des...
D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des... Il y a même des choses, des anglicismes, des idiotismes anglais qui sont très très mal traduits, et des choses aussi, des références culturelles qui sont absolument pas comprises. Enfin, c'est vraiment pas terrible quoi, comme boulot. C'est dommage de dire ça, parce qu'on a besoin des traducteurs, mais on a aussi besoin de bonnes traductions. Bon, je sais pas s'ils sont bien payés pour faire ce genre de boulot.
Ça se lit, mais
c'est quand même très affadi et bourré de fautes. Donc, White Trash, donc l'infirmière opposée finalement à ce gestionnaire, à ce restructurateur. Ouais. Et c'est un roman qui, pour le coup, là aussi, John King est très explicite dans les interviews. Il dit qu'il a écrit ce roman en défense du système de santé national. C'est aussi simple que ça. Voilà, il défend la santé publique. Donc, et là aussi, je trouve que c'est un assez beau roman parce que l'infirmière est très très attachée, très très attachée au parcours individuel des patients qu'elle participe à soigner dans l'hôpital. Et donc, c'est des parcours de vie qui sont aussi rendus à intervalles réguliers. Voilà, c'est la vie des gens, tout simplement. Et évidemment, face à ce gestionnaire, ce restructurateur, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Un peu de musique, peut-être ? Après, je vous parlerai rapidement de Prison House, un autre roman qui n'a pas été traduit.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, c'est Jeudi Noir avec Michel, José et moi-même, Jean-Mathias. Vous venez d'entendre The Business, Loud Proud Punk et
Loud Blitz. Proud and Punk.
et Blitz, Voice of a Generation.
Donc fier, voilà. Brillant et punk.
Tout à fait. Michel, tu étais en train de nous présenter un petit peu l'ensemble de l'œuvre de l'auteur sur lequel on discute aujourd'hui, puisqu'on fait une spéciale John King, un romancier anglais contemporain qu'on aime beaucoup ici à Jeudi Noir. Et donc tu nous as parlé de la première trilogie de King, et tu étais en train de nous parler de la suite de son œuvre. Alors ben, si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus.
Donc, la deuxième, c'est lui qui l'a formule dans une interview, hein, c'est Human Punk, donc White Trash, en défense du système de santé, et The Prison House. Alors, The Prison House, c'est un roman sur un personnage, un vagabond anglais qui... va se retrouver à la suite de circonstances un peu débiles, emprisonné pour 2 ans dans un pays qui n'est jamais mentionné. On a l'impression que c'est autour du bassin méditerranéen, mais on ne sait pas trop. Et en gros, qu'est-ce qu'il va réussir à faire de lui en prison, malgré toute la violence, et puis aussi tout son background, toute son histoire qui n'est pas forcément facile pour lui à supporter. Donc, c'est un roman qui est assez touchant aussi. Sur l'emprisonnement, qui est sans doute beaucoup plus avant-gardiste que beaucoup de ces... je reviendrai sur le style de King un peu plus tard, mais qui s'approche énormément à certains égards de Selby, qui a écrit aussi un roman sur la prison, ou d'auteurs de ce genre-là. Il y avait une Welsh aussi, Et donc, je ne sais pas pourquoi The White Trash et The Prison House n'ont pas été traduits. Bon, j'espère qu'ils le seront un jour. Étant donné que King, là, a été réédité récemment dans une autre maison d'édition, c'est plus aux Olivier, c'est au Diable Vauvert. Peut-être qu'ils vont amorcer la traduction des deux bouquins qui n'ont pas encore été traduits. Enfin, vous avez un dernier bouquin, le bouquin qui est sorti en français cet été.
Cet été, ouais.
Et c'est un bouquin qui s'intitule tout simplement Skinheads. Et... bon, plus qu'un livre sur le mouvement Skinhead, même si c'en est un aussi, José, j'ai essayé de pas trop cramer José, parce que c'est José qui doit en parler un peu tout à l'heure. Donc j'ai pas trop en dire quand même, mais... José, range cette arme. donc Skinhead, c'est plus finalement une espèce de réflexion sur la transmission, je crois, et le... Et comment dire, et en quelque sorte, la famille et ce genre de choses. Mais c'est à partir de Skinhead qui sont décrits comme des gens globalement normaux.
On verra tout à l'heure, hein, c'est bon.
Voilà, donc, j'en dis pas plus, parce que je crois que les 3 notes sur un post-it de José vont pas faire long feu si je continue.
Salaud.
Donc, alors après, on pourrait se demander pourquoi décrire tout ça et comment le décrire aussi. Parce que. Le pourquoi, je pense qu'il est relativement simple à énoncer. Surtout quand on lit un peu King. C'est que d'une part, lui, il se revendique du milieu qu'il décrit. Il a longtemps été voir les matchs de Chelsea, sans doute continue-t-il d'ailleurs. Une grande partie de son activité, quand il n'est pas en train d'écrire, et quand il n'est pas en train de penser à ce qu'il va écrire, c'est les relations sociales qu'il peut entretenir avec des amis, dans un certain nombre de pubs, dans Londres. Et donc, il est, il avoue souvent qu'il n'a pas appris grand-chose à l'école, mais plus en lisant tout seul, à partir d'un certain âge, relativement vers 18-20 ans, il a commencé à lire, et en écoutant les paroles des Clash, des Pistols et autres, qui, il a écrit, tu l'as peut-être pas lu, c'est Jean-Mathias, il a écrit un hommage au chanteur des Clash quand il est mort.
D'accord.
Et dans cet hommage, il finit par le mentionner comme un éducateur, en disant il a été un de mes éducateurs. Donc il se revendique vraiment des milieux populaires qu'il décrit, avec une certaine empathie. Et ici, son but est assez explicite, c'est qu'il s'agit, à mon avis, pour lui de donner à voir une autre image du peuple que celle qui est présentée dans les médias. La presse est l'une de ses obsessions. Il n'arrête pas les personnages plutôt de John King n'arrêtent pas de l'attaquer à longueur de roman.
Oui, ça c'est sa tête de turc.
C'est une constante.
Numéro 1, effectivement, les journalistes, la presse. C'est vrai. Alors c'est une constante du milieu hooligan en général, mais là effectivement, il donne une dimension vraiment politique et voilà, récurrente de ça, ouais, ça c'est clair.
Une autre analyse, oui, parce que c'est les médias, si vous voulez, chez John King, sont toujours présentés comme des moralisateurs.
Et la voix de leur maître.
La voix de leur maître, qui sont là pour dire au bon peuple abruti comment il doit se comporter, ce qu'il doit faire, ce qui est bien, ce qui est mal. Et finalement,
c'est même pas ça. Il me semble que la presse est là pour montrer à ses clients ce peuple en face d'eux. Voilà. Et comment justement et pourquoi comment ça se passe cette violence, cet alcoolisme, cette immoralité, cette absence de projection. Et donc d'une certaine manière, la presse, le rôle de la presse, enfin il me semble ce qui transparaît, c'est de rassurer les clients aisés qui la lisent en expliquant que bah, effectivement ils sont bien à leur place et que le peuple lui aussi est bien à la sienne. Et donc il y a cette confirmation là en permanence dans le regard que la presse peut porter sur les hooligans ou les catégories populaires en général. Comme
oui, parce qu'il n'y a pas que les hooligans qui sont mentionnés par John King, il y a aussi les mères célibataires.
Bien sûr.
Il y a tout un tas de choses comme bien ça sûr. Qui ouais. sont régulièrement justement vilipendées dans la presse anglaise, semble-t-il. Donc, ça, c'est une des têtes de turc assez, assez constantes de King. Tout ce milieu-là, le milieu politique, milieu politique et le milieu de la presse qui sont souvent mis dans le même panier. Voilà, comme effectivement ce que tu as raconté. Et puis aussi, quand même, le côté moralisateur qui est très.
C'est-à-dire
qu'effectivement, il s'agit de montrer aux gens aisés que le peuple est une bande d'abrutis qui se vautent dans la pierre et la violence, et il s'agit de dire au peuple, c'est pas bien. Et l'idée de King, c'est que finalement, ils prennent jamais en compte la réalité des gens. C'est-à-dire qu'à côté des hooligans, il y a des gens qui essaient de s'en, comment dire, qui mènent leur vie.
Et les hooligans eux-mêmes vivent.
Les hooligans eux-mêmes vivent. Très souvent, en dehors de leur période de hooliganisme, ils vivent de façon tout à fait normale. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que les hooligans.
Bien sûr. Oui, non, c'est pas.
Et donc, quoi que les hooligans vivent, ça reste à vérifier. Mais peut-être qu'on les sort des placards uniquement pour les périodes de hooliganisme, à savoir.
Il faudrait enquêter, il faudrait demander à un journaliste.
Voilà. Donc je pense qu'il y a ce souci très très présent d'avoir une autre image du peuple. Mais il y a aussi, je pense d'un point de vue plus littéraire, il s'agit aussi de faire entendre la voix du peuple. Le style de King est très 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 spécial. C'est-à-dire que c'est aussi la traduction française, et pour ça, j'en excuse, ça fait snob, je sais, mais merde quoi.
Merde.
Non mais c'est... les insultes, les jurons, les tournures de phrases sont en français, c'est ridicule. C'est super dur, quand on lit la traduction, on voit tout à fait que c'est quelqu'un de cultivé qui essaie de faire canaille et qui utilise un argot complètement daté. De ce point de vue-là, c'est pas forcément
une réussite,
je trouve. Alors que, en anglais, ça donne autre chose. Et ça reste lisible en même temps. Alors, d'autre part, comment King s'y prend pour montrer tout ça ? Alors là, je voudrais dire quand même 2-3 mots. Je m'excuse, ça va être un peu...
Attention.
Une question de style.
Il va parler de style indirect libre.
Non.
Je préviens les auditeurs à l'avance.
J'avais dit que je n'en parlerais pas comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir, plutôt que d'employer les mots savants là, dans ce gargarisme Jean-Mathias, c'est que tous les récits de King sont écrits du point de vue du ou des personnages. Il n'y a jamais une espèce de narrateur qui surplombe le tout et qui nous dit où va l'histoire. Toute l'histoire est racontée par les personnages, de A à Z. Et donc, ça peut troubler, en particulier quand tout est écrit ou presque du point de vue d'un hooligan.
Oui, c'est vrai que
ça fait quand même une sacrée claque. Alors, on pourrait aussi se demander comment est-ce qu'il introduit un minimum de distance critique là-dedans. C'est que, d'une part, les personnages s'en chargent, parce que les personnages de John King ne sont jamais avares de jugements divers et variés, politiques, moraux, musicaux et autres. Ils passent d'ailleurs une bonne partie de leur temps à juger ce qui se passe autour d'eux. Donc, de ce point de vue-là, il y a le point de vue des personnages. Et puis, d'autre part, il y a aussi une autre technique romanesque qui consiste quand même à faire parler les faits. C'est-à-dire que quand on voit la vie de certains protagonistes de la meute ou la vie du gars dans Football Factory, on voit que c'est quand même... il y a quand même un côté assez triste d'état d'égard. Et parfois aussi, leurs contradictions sont montrées pour peu qu'on les lise un peu attentivement. Donc ça, je pense que c'est quand même assez intéressant comme parti pris stylistique. Vous aurez jamais un narrateur, tout est écrit à la première personne, du point de vue d'un des personnages. Bon, j'arrête là-dessus.
C'était, ça va, on a suivi.
Voilà, vous avez suivi. Bon, tu remarqueras, j'ai pas. Enfin, bon, dernier point que je voulais aborder là-dessus, c'est. Puis après, peut-être que je laisserai la parole à José. Non, José. Si, t'as plein de trucs à dire. Il prétend ne rien avoir à dire, mais si. Enfin, je voudrais aborder donc, un dernier point, c'est l'inspiration orwellienne de King, qui est revendiquée et qui apparaît assez souvent. Alors, elle n'apparaît pas toujours de façon explicite, mais dans une de ses interviews, il dit que, par exemple, pour Football Factory, son inspiration est venue de 1984, et de ce que dit Orwell des prolos en 1984, qui sont considérés comme étant pas menaçants pour le pouvoir, et donc relativement libres par rapport aux élites moyennes, entre guillemets, de 1984, parce qu'on sait que jamais ils ne s'uniront face au pouvoir. Tout est fait d'ailleurs pour qu'ils ne s'unissent pas face au pouvoir. Et en fait, le questionnement et la description que fait King du hooliganisme part de là. Il le dit dans une interview, Ça aide, je pense, c'est un fil conducteur qui peut aider à comprendre justement ces romans et ce qui les sous-tend.
T'en as un autre qui est beaucoup plus direct aussi, c'est dans Football Factory, c'est presque une tarte à la crème, mais il y a l'obsession aussi de l'installation de la vidéosurveillance.
Oui.
Qui est dans les stades, en dehors des stades, et le fait de vivre sur écran et avec cette surveillance permanente là, et effectivement, vis-à-vis de laquelle les personnages se trompent absolument pas quant à la signification politique et de contrôle que ça implique. Et ça, bon, voilà, ça, c'est effectivement aussi un héritage presque, copier-coller
d'Orwell,
de 84. Ouais.
Bon, vous avez aussi souvent des citations directes, des citations qui sont... Alors, d'Orwell, c'est soit les romans, soit les essais.
Et puis de plus globalement, ça, on en parlera peut-être un peu après, c'est le projet, y compris moral, que de King, hein, le fait de décrire des gens ordinaires, et une morale qui n'est pas une morale, effectivement, de grands sentiments, une morale abstraite, ou qui est une morale, effectivement, du quotidien ordinaire, quoi, justement. Hein,
c'est ce que j'ai appelé, c'était le deuxième point de Orwellien, c'était la défense et l'illustration des qualités morales, finalement, des gens ordinaires. Qui, bon, sont pas toujours très cohérents, sont pas toujours très sympathiques, sont pas toujours, mais qui, pour King, bon, là, peut-être il est un peu optimiste, sont, ont des espèces de. Une base morale, on pourrait dire, un peu fondamentale, avec. Il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas, et là-dessus, on ne transige pas trop.
Bah, la décence commune, normal, quoi.
C'est comme ça que, par exemple, il y a une scène récurrente chez King, c'est. Alors, on la trouve, je crois, dans England Away. C'est un ancien combattant qui voit un Indien se faire humilier devant ses enfants par deux jeunes crétins, et qui, avant de sortir de la rame de métro, leur met un bon coup de poing dans la figure, histoire de remettre les choses au point, si j'ose dire. Et donc, vous avez ces genres de réactions morales, sinon, qu'ils n'ont jamais théorisées, qu'ils n'ont jamais forcément revendiquées, mais qui, pour King, sont toujours présentes. Et qui peuvent aussi donner lieu, de façon un peu surprenante, à un certain conservatisme aussi.
Ah oui.
Même assez prononcé. Enfin, je pense un troisième point, ça peut être. Tu voulais dire un truc.
Non, l'ancien combattant, c'est effectivement, c'est la figure même
de la personne autorisée à donner son point de vue.
Old school et conservatrice et conservée, en l'occurrence, mais qui est porteuse de ça, de ces valeurs-là aussi, de la décence commune, pour reprendre les termes d'Orwell.
Enfin, un autre point qui est quand même aussi très très présent, c'est le socialisme de John King. Un socialisme qui est pour le coup typiquement orwellien. Je pense que c'est du... Si on veut le comprendre, ça, il faut aller lire les essais d'Orwell. Vous avez une édition chez Ivrea, Le ventre de la baleine, et Nos jours heureux, je crois, je ne sais plus. Et vous avez en particulier un essai qui s'appelle Le lion et la licorne, qui porte sur le socialisme anglais. Alors, anglais, ici, c'est important, parce que... Qu'est-ce que John King appelle le socialisme, ou qu'est-ce que Orwell appelle le socialisme? Ça n'a strictement rien à voir avec les gens qui sont supposés nous gouverner. C'est parce qu'il est... Encore chez Orwell, il est explicitement révolutionnaire. Il s'agit finalement de quelque chose qui s'approche, qui se rapproche beaucoup, à certains égards, pas à tous, des idées libertaires. C'est le rôle de l'État là-dedans qui est pas très libertaire, j'ai l'impression. Mais l'idée, c'est que c'est ni Staline ni Thatcher. pour dire ça brutalement. C'est un mouvement qui peut être très anticommuniste, comme l'ont été d'ailleurs certains mouvements anarchistes. mais qui pour autant refuse le libéralisme. Et aussi, évidemment, les sirènes du fascisme ou toutes ces choses-là. Et qui a l'idée que, bah, on doit s'organiser solidairement, de façon à ce que, comment dire, qu'il y ait le moins d'inégalités possibles et que le but, si vous voulez, de la vie soit pas forcément l'enrichissement, le but de la vie sociale soit pas forcément l'enrichissement, mais peut-être plutôt un bien-être quand même, un certain confort pour à peu près tout le monde. Et avec une grosse insistance sur l'abolition des, comment dire, du mépris social et des inégalités que cela suppose. Et donc, ce qui est assez curieux pour nous, c'est que ça va aussi avec un certain patriotisme, ce socialisme-là. Alors ça, je pense que c'est pour des motifs politiques qui sont propres à Orwell, qu'il explique assez bien, en disant que finalement, ce que montre la Seconde Guerre mondiale et ce que montre le début du XXe siècle, c'est que l'internationalisme n'est pas assez puissant pour, sentimentalement, émotionnellement, pour soutenir une sorte de combat politique.
Il est abstrait d'une certaine
c'est
manière.
Ça. C'est réservé pour lui aux intellectuels de salon, qui, à la limite, sont en faveur d'une paix séparée avec Hitler pour qu'on leur fiche la paix. Là-dessus.
Ça, c'est chez Orwell. Hein,
ça, c'est chez Orwell, mais on le trouve aussi d'une certaine manière chez John King, qui n'est pas du tout internationaliste, pour le coup, qui est assez patriote, je pense, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Alors, patriote, ça ne veut pas dire non plus qu'il est raciste. À un moment, on l'interroge sur qu'est-ce qu'il pense de l'immigration. Et il dit, on la critique beaucoup, mais c'est des bêtises. Tant que les gens viennent ici pour vivre avec nous, je ne vois pas le problème. Et juste après, il part sur sa deuxième obsession avec les journalistes. Par contre, ce qu'il déteste, c'est les Européens qui viennent en Angleterre uniquement pour se faire du fric. Ça, ils ne supportent pas. Eux, ils voudraient les virer un coup de pied au cul. Parce que pour lui, ils ne viennent pas en Angleterre pour vivre en Angleterre avec les Anglais. Ils viennent pour se faire du fric avant de se tirer. Et ça, ils ne supportent pas. Par contre, le gars qui vient ici, qui vient en Angleterre, qui élève ses enfants et qui s'y installe, oui, sans souci. Le tout, c'est finalement d'avoir des... Comment dire, je pense... ça, ce serait du Orwell... un amour commun pour un certain mode de vie. Et ça, chez Orwell, ça va tout à fait avec le rejet de la hiérarchie sociale, le patriotisme, avec le rejet de l'élite, soit supposé, et toutes ces choses-là.
Et si on met, c'est un peu après ça, et puis on trouve pas, c'est pas du tout théorisé dans les romans, ça, rassurez-vous, c'est des romans, qui raconte des histoires et tout ça, mais d'une certaine manière, dans le socialisme un peu à l'anglaise, alors d'une part, il est très marqué, il y a une conscience de classe très forte, ça c'est vrai que la classe ouvrière anglaise, y compris aujourd'hui, ça transparaît vraiment fortement dans les romans de King. Et c'est une espèce de c'est un mélange un peu étonnant pour nous avec les cadres un peu franchouillards, parce que c'est, il y a à la fois, tu disais tout à l'heure, ils sont très hostiles au libéralisme, oui et non, parce que c'est une espèce de libéralisme très égalitaire aussi, c'est-à-dire qu'effectivement on respecte aussi les diversités individuelles.
Libéralisme politique, pas économique.
Ah non, bien sûr, politique, ça c'est clair.
C'est-à-dire c'est la liberté individuelle.
C'est ça, mais on est très attaché à ça aussi, c'est-à-dire
mais
qu'effectivement...
Mais par contre, il est totalement opposé à tout ce qui est libéralisme économique.
Toutes les logiques effectivement capitalistes, ça c'est clair. Mais par contre, effectivement, sur le plan politique, c'est un truc qui est un peu surprenant pour nous, parce que nous, on n'a pas du tout cette tradition-là en France, ou peu.
Ouais, on a été trop marqué par le PCF, pour le coup, je pense.
Par le PC, la République et tout ça. Mais en tout cas, effectivement, si on devait caractériser, il y aurait quelque chose comme ça. Et c'est rien que pour ça, c'est des paysans, l'Angleterre, c'est pas loin, mais effectivement, là, pour le coup, y compris sur ce que ça peut signifier, effectivement, au quotidien, c'est intéressant pour ça aussi.
Voilà, bon, on va vous passer un peu de musique. Et puis après, on va enfin laisser la parole à José.
Mais qui va.
Voilà,
pour le bouquet final.
Pour le bouquet final magnifique. Might not last, one lovely, one for us.
sur Radio Liberté à 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité.
C'est Jeudi Noir, avec une émission spéciale autour de John King, un romancier anglais contemporain. Donc on vous a présenté un petit peu l'ensemble de son œuvre dans le début de l'émission. On a commencé à discuter ensemble du contenu, de ce que vous y trouverez, et puis de l'intérêt qu'on y trouve nous, c'est-à-dire de tout ce qu'on apprend sur la société anglaise, et puis sur la classe ouvrière anglaise, sur les milieux populaires anglais, sur la conscience politique aussi des classes populaires anglaises. Donc plein de choses intéressantes, et puis plein de choses aussi très rigolotes du quotidien. Pour illustrer ça, vous venez d'écouter une chanson des Four Skins qui s'appelle One Love for Them. Et je passe maintenant la parole à José qui va nous parler donc du dernier roman de John King, traduit et en français et édité cet été, qui s'appelle Skinheads.
Bonsoir d'abord, hein, politesse, c'est le minimum qu'on puisse faire hein, quand même. Bon, Michel a décidé de griller tous mes thèmes, heureusement qu'il me laisse que 5 minutes pour parler, donc ça va aller comme ça. Donc effectivement, Skinheads de John King, c'est le premier John King que j'ai lu, parce que je l'ai découvert cet été sur les conseils de Michel justement, et de quelques amis qui avaient adoré Football Factory et compagnie. J'ai enchaîné sur Human Punk, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, justement qui est peut-être le plus émouvant. Mais Skinheads également est très 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 humain, comme tout ce qu'écrit John King. Alors Skinheads, aux éditions du Diable Vauvert, celui-là vous le trouvez vraiment très facilement, puisqu'il est sur toutes les tables des libraires en coup de cœur. On le voit partout dans les bonnes librairies parisiennes. Et alors Skinheads, ça traite évidemment des skinheads, mais skinheads comme ça, si on connaît pas trop l'historique, ça évoque plus des crânes rasés qui font oi oi, des néo-nazis, etc. Donc évidemment, John King, c'est pas du tout ça qui l'intéresse. Lui, il parle de trois générations de skinheads. Le personnage principal, hein, le narrateur principal, même si ça se passe pas que dans sa tête et par sa voix, tout ce qui est décrit, c'est Terry English, déjà un nom formidable hein, pour un skinhead. Donc lui, c'est ça. Thierry l'anglais, quoi.
Thierry l'anglais.
Et lui, c'est un vrai skin 69, donc il se définit comme un original skin, vraiment le skin des origines. Donc il a 50 ans au moment du roman. Et ce skin 69, alors pour ceux qui connaissent pas trop les origines du mouvement skinhead, c'était des skinheads qui écoutaient du ska, comme le morceau qu'on a passé en tout début d'émission, donc le ska de la fin des années 60, et donc qui était imprégné de culture des Caraïbes. Pas le reggae encore, hein, le reggae n'était pas encore apparu, mais le ska et le rocksteady, donc avec un mode vestimentaire proche des mods justement, des modernistes, ils venaient un petit peu, pour les skins les plus âgés, ils venaient de Slade, des Kings, des Who, ce genre de groupe-là, hein, même ça allait de Motown au glam anglais. Et alors ce skinhead-là, Terry English, il a un neveu, donc qui doit avoir la trentaine, disons même pas, qui s'appelle Ray, qui est surnommé Ray le cinglé ou Ray coup de boule. Donc là, on comprend tout de suite que c'est une autre génération de skinhead, c'est très bien dit très naturellement dans le roman. Donc lui, c'est un skinhead années 80, peut-être plus proche des idées qu'on se fait du skinhead, avec le bomber, ce crâne rasé, etc. Plus prompt à la baston, et peut-être plus proche de l'univers football, justement. Personnage très 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 émouvant, très touchant ce Ray, je reviendrai tout à l'heure dessus rapidement. Et puis Terry English, il a un fils qu'il a appelé Laurel, en hommage à Laurel Aitken, donc qui est un des parrains du ska de la fin des années 60. Et lui, ses copains le surnomment LOL. Déjà, ce qui a le don d'énerver Terry English, qu'on appelle son fils LOL et pas Laurel, alors qu'il s'est donné le mal de lui donner le prénom d'une de ses idoles. Et lui, c'est la troisième génération, donc pour lui, Nirvana, c'est un groupe de vieux, il a jamais écouté, Guns N' Roses, il connaît pas. Lui, il écoute du skatepunk avec ses copains, il bouffe au McDo, etc. Donc on a là trois visions complètement différentes de l'Angleterre, et tout ça dans le milieu skinhead. Alors Terry English, donc la cinquantaine, il raconte à l'heure actuelle son passé, L'histoire aussi de son neveu, de la deuxième génération, ce qu'il pense de cette deuxième génération de skinhead, toujours avec beaucoup de bienveillance, et puis son fils, pour lequel il a beaucoup d'amour aussi, et donc il est très protecteur là-dessus. Il n'a pas un regard aigri par rapport à la nouvelle génération. Il ne dit pas « avant c'était mieux », maintenant c'est de la merde », pas du tout. Ce Terry English, dans la vie, il considère qu'il a réussi, qu'il est un bon anglais, puisqu'il a monté sa boîte de taxi, qui s'appelle Esther Eckhart, et dans laquelle il embauche que des skinheads. Donc c'est vraiment un look, ils ont un dress code hyper précis, le cheveu de 3 mm, voilà, soit Harrington, soit les Ben Sherman et compagnie, toutes les fringues de skinhead classiques. Et donc sa boîte de taxi tourne bien, il a réussi à bien en vivre, à avoir une belle maison, pas mal d'argent, ce qui lui permet même d'acheter un petit club, un bar en fait, qu'il retrouve et qu'il va consacrer à la musique ska. Et ce Terry English, donc, on le voit évoluer tout au long du roman, en portant un regard sur la politique de son pays. La vision des skinheads et d'autres gens par rapport à la population immigrée aussi en Angleterre. Et alors Terry English, que ça soit assez clair, lui, le racisme, il ne connaît pas, ça lui paraît un petit peu aberrant. Ray, années 80, lui aussi, il n'est pas du tout raciste, mais il comprend un peu mieux parce qu'il évoluait dans une deuxième génération de skinheads où le National Front ou le British National Party ont commencé à embaucher des skins dans leur service d'ordre, etc. Et puis sur son fils, donc Laurel, le troisième, qui lui est carrément au-dessus de tout ça, il ne connaît absolument pas, il ne sait même pas de quoi on parle. C'est un petit jeune de maintenant. Alors ces gens-là, ils vivent dans la ville de Slough. Slough, pour ceux qui connaissent The Office, la série de Ricky Gervais, c'est là où ça se passe. Donc, ville qui est décrite comme une ville satellite hyper glauque, sordide, où il ne se passe rien. Là aussi, John King décrit cette ville par la voix de Terry English et de ses autres personnages comme très attachante, vivante, c'est là où ils ont tout vécu. Et ce qui fait que ce personnage de Terry English, justement, qui a un regard bienveillant sur plusieurs générations de skinheads, manifeste quand même une grosse, grosse nostalgie par rapport à sa jeunesse, à ce qu'est devenu sa ville. Donc il y a des choses qu'il n'aime pas. Mais dans l'ensemble, il la défend. Alors ça rejoint parfaitement ce dont parlait Michel tout à l'heure par rapport au patriotisme. Effectivement, là c'est très très prégnant le patriotisme. Absolument pas le nationalisme pour ces personnages-là, même si d'autres autour, ça se ressent un peu plus chez d'autres autour. Chez eux, c'est un côté, on pourrait dire travail, famille, patrie. Si c'était pas aussi connoté en France, on pourrait le dire. Eux pourraient avoir cette devise-là, mais absolument pas, ça n'a rien à voir avec le fascisme, absolument anti-pétainisme. Mais travail, pour eux, c'est une valeur de base. Quelqu'un qui ne travaille pas, c'est un hippie, c'est un parasite de la société. Ils mettent le travail comme une valeur primordiale. Puisque c'est lié aussi au côté libéral, où on est indépendant, on se fait par soi-même, etc. Oui,
avec donc, des valeurs d'autonomie aussi, quoi.
Tout à fait, d'autonomie, voilà, c'est là-dessus complètement. La famille, parce que finalement, ces skinheads-là sont hyper traditionnalistes, très très protecteurs, ils ont déjà cet esprit de clan, de tribu, par rapport à leur famille élargie, que ce sont les amis. La famille élargie et la famille directe. Donc là, c'est aussi une valeur qui revient très très souvent et qui est un fil rouge dans ce roman-là, Skinheads. Et puis la patrie, on en a parlé aussi un petit peu. Pas du tout comme une défense à tout craint de la patrie, quelle qu'elle soit. Non, pas du tout. Il est toujours très critique, ce personnage de Terry English, qui parle pour John King, d'après ses interviews et d'après ce qu'on peut lire dans Human Punk également. Et c'est à la fois un petit mélange de patrie idéale, quand même, et aussi un côté pro-patrie contre l'Europe. Donc on a un côté européen qui est tout le temps là, et donc forcément anti-establishment. Donc c'est assez intéressant, justement, cette position skinhead, cette position politique du skinhead. Il y a le côté hyper traditionnaliste et à la fois subversif, parce que une critique énorme des politiques anglais. Il est déjà super tard, on va faire une deuxième émission, mais là Michel n'aura pas le micro parce que j'ai même pas fait un demi-post-it. Il me reste au moins facile un, quoi.
Il faut lire ce livre.
Ouais, lisez-le. Alors la traduction, je peux revenir. Je suis un peu plus positif par rapport à la traduction. Les dialogues sont pourris.
Michel est dur sur les traducteurs.
Parce que franchement, non, j'ai trouvé ça naze aussi au niveau des dialogues, parce que des vieux potes skinhead qui utilisent des formes interro-négatives, c'est juste pas possible. Ouais. Mais tout ce qui est plus narratif ou tout ce qui est réflexion, etc., c'est pas mal. Il s'en est bien sorti quand même, les gars. Puis tant pis, on va écouter de la musique et puis on se revoit dans deux semaines. Bonne lecture.
I'm gonna race with a mother.